Octave Feuillet, Histoire d'une Parisienne, quatrième partie. Chapitre 12. Pendant que la nouvelle du brusque enlèvement de Madame de Morescan par son mari se répandait de salon, en sourds chuchotements mêlés de rire, Monsieur de Morescan se jetait lourdement dans son coupé à côté de Jeanne. Dès qu'il n'avait plus eu de témoin, il avait cessé de lui parler de son fils. Ce silence et l'attitude farouche qu'il gardait ne pouvaient plus laisser l'ombre d'une illusion à la malheureuse jeune femme. Elle éprouvait une détresse inexprimable. C'était l'étonnement hébété d'une créature atteinte par la foudre en pleine vie, en plein bonheur, en pleine innocence. L'indignation douloureuse d'une honnête femme publiquement insultée. L'appréhension vague de quelque catastrophe inconnue, prochaine et terrible. Dans ce trouble sans nom, elle demeura muette, attendant qu'il parlât. Elle attendit en vain, et le trajet, assez court d'ailleurs, de l'avenue Gabriel à l'avenue de l'Alma, se passa sans qu'une parole fût échangée entre eux. Jeanne, cependant, commençait à dégager son âme, naturellement vaillante, du chaos de sentiments où la première surprise l'avait jetée. Elle traversa d'un pas ferme, sous les yeux de trois ou quatre valets immobiles, le grand vestibule sonore de son hôtel, et monta l'escalier en silence. Mais, quand, arrivée sur le palier du premier étage où était son appartement, elle vit que son mari, qui demeurait au-dessus d'elle, s'apprêtait à passer outre et à la quitter, « Pardon, lui dit-elle, veuillez entrer là, j'ai à vous parler. » Il hésita quelques secondes. Comme la plupart des hommes, il n'aimait pas les explications. Mais c'était en réalité un caractère violent plutôt que fort. L'accent calme et résolu de sa femme lui imposa, tout en l'irritant. Il la suivit donc chez elle, mais avec un degré de colère de plus. Elle ferma la porte derrière lui et passa dans le boudoir qui précédait sa chambre à coucher. Se retournant alors et le regardant. « Enfin, dit-elle, qu'est-ce qu'il y a ?»« Il y a, dit-il, que je tuerai votre amant demain matin. Voilà ce qu'il y a. » Elle joignit les mains avec bruit et continua de le regarder, les lèvres entrouvertes, comme égarées. « Voilà assez longtemps, reprit-il en jurant et en s'irritant lui-même par la violence de son langage. « Voilà assez longtemps que vous me bravez, que vous m'outragez tous deux, que vous me couvrez de ridicule. Ça va finir. »«
Vous êtes un malheureux fou, » dit-elle doucement. « Je n'ai pas d'amant. Mais voyons, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous allez provoquer Monsieur de Lerne en duel ?»«
Il n'y a pas à provoquer, » répondit-il avec le même accent de forfanterie grossière. « C'est fait. Nous nous battons demain. » La jeune femme joignit encore les mains et laissa entendre une sourde exclamation de douleur. Son mari parut avoir une sorte de honte de sa brutalité et poursuivit en précipitant ses mots et presque en balbutiant. « Il est bien clair que je n'avais pas l'intention de vous en prévenir. Ça n'entre pas dans mes mœurs. Mais vous l'avez voulu. Vous me forcez la main. Vous me poussez à bout. C'est lui, d'ailleurs, qui a comblé la mesure ce soir. Continuer de faire la cour publiquement à la femme quand on se bat le lendemain avec le mari, c'est indigne d'un galant d'homme. C'est ignoble.
« Monsieur de Lerne, dit Jeanne avec force, ne m'a jamais fait la cour, ni ce soir ni jamais, du moins comme vous l'entendez. Votre honneur n'est compromis que par vous-même. Votre duel avec lui serait une folie, une mauvaise action, un crime. Car je vous le jure et je vous l'atteste devant Dieu, sur la vie de mon fils, il n'a jamais été pour moi qu'un ami. »
Bien entendu, répliqua Monsieur de Morescan en ricanant. Allons, je crois qu'en voilà assez, et même trop.
et il fit quelques pas vers la porte. Elle se jeta devant lui. « Non, je vous en prie !» s'écria-t-elle. « Je vous en supplie, ne partez pas encore. Si vous saviez ce que c'est pour une femme, qui a souffert après tout, qui a lutté, qui a été tentée, mais qui enfin est restée honnête, pure, fidèle, de se voir, non pas soupçonnée seulement, mais condamnée, châtiée avec ce comble d'injustice et de dureté. Si vous saviez ce qui se passe alors dans sa malheureuse tête, si vous saviez ce que vous pouvez faire de moi en ne me sachant gré de rien, en me traitant, imprudente tout au plus, comme si j'étais coupable de tout. « Ah, oh, assez !» répéta-t-il rudement en essayant de se dégager. Elle le retint encore en le poussant doucement devant elle d'une main suppliante. Il s'adossa à la cheminée dans une attitude de résignation bourrue. « Vous savez aussi bien que moi, poursuivit-elle, l'histoire de notre pauvre ménage. Vous ne m'avez pas aimé longtemps, mon ami. C'était ma faute, sans doute. Je ne vous plaisais pas. Mes goûts n'étaient pas les vôtres. Tout ce que je faisais, tout ce que j'aimais, vous fâchait, vous ennuyait. Vous m'avez abandonné. Vous êtes allé à vos plaisirs. C'était tout simple. Je sentais que je n'avais rien à dire, puisque je n'avais pas le pouvoir de vous retenir. Mais j'étais bien jeune dans ce temps-là, mon ami, car il y a des années déjà. Et alors, oui, j'ai couru des dangers, je vous l'avoue. Seule dans ce monde, découragée, énervée, sans soutien, entourée de mauvais exemples, livrée à de mauvais conseils, poursuivie et à demi pervertie par des gens que vous ne soupçonnez guère. Oui, je me suis sentie un moment sans cœur, sans vertu, tout près du mal. Eh bien, c'est l'amitié qui m'a sauvée, cette amitié même dont vous me faites un crime. Monsieur de Lerne a été pour moi... un frère ? Interrompit M. de Montrescan avec le même ton d'ironie insultante. « Soit, reprit-elle en s'animant, un frère, si vous voulez. Enfin, il m'a sauvée, voilà ce qu'il y a de certain. Quand j'allais prendre le goût des plaisirs défendus, il m'a donné ou rendu le goût des plaisirs permis. Et si votre femme n'est pas à l'heure qu'il est une femme galante, c'est peut-être à lui que vous le devez, et vous voulez le tuer. Est-ce juste ? Est-ce honnête, voyons ? Juste ou non, j'y ferai mon possible, je vous assure. Allons, laissez-moi. Mais grand Dieu, quel homme êtes-vous donc si vous ne me croyez pas ? Ou si, me croyant, vous persistez dans vos desseins de haine et de vengeance ? Non, non, je ne veux pas me lasser de faire appel à votre raison, à votre justice, à votre loyauté. Voyons, je ne voudrais pas vous blesser, Dieu sait. Mais dans un ménage comme le nôtre, dans une situation comme la mienne, que voulez-vous qu'une jeune femme fasse de son temps, de son cœur, de sa pensée, de sa vie? Vous avez vos maîtresses, laissez-lui au moins ses amis. Et soyez-en sûr, il faut que vous choisissiez entre les amis qu'elle avoue ou les amants qu'elle cache. « Oh, ça, décidément !» s'écria M. de Montrescan. « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous me demandez? Prétendez-vous par hasard, ce serait un peu fort, que j'aille tendre la main à M. de Lerne, lui faire des excuses et le prier de vouloir bien reprendre ses relations avec vous. « Oui, dit-elle avec énergie, c'est cela même que je vous demande. Excuse à part, bien entendu, et en vous demandant cela, je vous demande une chose absolument juste, honorable et sensée. Car en réalité, c'est le seul moyen que vous ayez de réparer le tort que vous avez fait à votre honneur et au mien. C'est le seul moyen de faire tomber les calomnies qui ont pu courir dans le monde, auxquelles votre conduite ce soir a donné plus de vraisemblance, hélas, et dont ce duel serait l'irréparable consécration. Si vous avez le courage de rendre vous-même justice à votre femme innocente, la vérité a bien de la puissance. Allez, on vous croira. Et pour moi, mon ami, si vous saviez combien je serais touchée, reconnaissante, comme je vous le prouverais en respectant pieusement dans l'avenir des susceptibilités que j'ai peut-être trop peu ménagées, c'est possible. Et qui sait, enfin, si cette action généreuse ne serait pas entre vous et moi un lien tout nouveau. Éprouvés tous deux par la vie, mieux instruits par l'expérience, par la douleur, Qui sait si nos cœurs ne se rapprocheraient pas? Qui sait? Allez, cela ne dépendra que de vous, je vous assure. Si vous ne deviendriez pas vous-même pour moi ce que vous auriez toujours dû être, mon meilleur, mon seul ami. »
Tout cela est fort beau, sans doute,
dit monsieur de Morescan en se rengorgeant dans sa cravate. Mais c'est du pur roman. Toujours ce misérable esprit romanesque qui vous perd toutes.
Ah, mon Dieu, reprit la pauvre femme dont les larmes ruisselaient.
Eh bien quoi? Que voulez-vous vous-même? Continua-t-elle avec exaltation en se tordant les mains. Voyons, qu'exigez-vous? Que je ne reçoive plus monsieur de Lerne? Que je ne le voie plus? Que je ne lui parle plus jamais? Que je vous sacrifie cette amitié et toutes celles que j'aurais pu avoir dans l'avenir? Soit, je vous le promets, je m'y engage, je vivrai seule, je vivrai comme je pourrai. D'ailleurs, mon fils va grandir, je m'occuperai de lui, il sera mon ami, cet enfant. Oui, je sens que c'est possible, je vous le jure, et je tiendrai ma parole. Mais de grâce, mon ami, ne donnez pas suite à ce duel. Il n'a pas de cause, pas de raison. C'est une chose monstrueuse, je vous assure. Tenez, je vous en supplie à genoux. » Elle se jeta à ses pieds éperdue et sanglotante. « Je vous en supplie à main jointe, de tout mon cœur, de toutes mes larmes. Soyez bon, je vous en prie, laissez-vous toucher. Ne me désespérez pas. »
Allons, s'écria monsieur de Morescan en la repoussant. C'est du mélodrame maintenant.
Elle se dressa sur ses genoux, essuya vivement ses yeux, et lui saisissant les deux mains d'une étreinte violente.
Ah, malheureux, lui dit-elle d'une voix sourde, vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne le savez pas. Je ne vous dirai pas que vous me tuez, ce serait trop peu dire. Vous me damnez.
Et lui lâchant brusquement les mains,
« Vous pouvez vous en aller. Adieu. »
Monsieur de Morescan sortit. Après le départ de son mari, la jeune femme demeura quelques moments affaissée et comme écrasée sur le tapis, les cheveux à demi dénoués, l'œil fixe et sec, agitant la main par intervalles d'un geste égaré. Elle fut tirée de son accablement par quelques coups légers frappés à la porte du salon. Elle se leva aussitôt. Sa femme de chambre parut. « Madame, dit-elle, c'est madame la comtesse de Lerne qui est en bas et qui demande si elle peut dire deux mots à madame la baronne. »«
Madame de Lerne ?
Oui, madame. Dois-je dire que madame est souffrante ? Madame n'a pas l'air bien. »
« Faites monter. »
L'instant d'après, la comtesse de Lerne entra. Livide, les yeux hagards, toutes les lignes du visage creusées et convulsées. Sans remarquer d'abord l'extrême désordre où elle trouvait Jeanne, elle marcha sur elle du pas raide d'un spectre et lui dit dans les yeux.
« Votre mari se bat demain avec mon fils. »«
Je le sais, » répondit Jeanne, « il vient de me le dire. »«
Ah !» reprit amèrement la vieille dame, « il vient de vous le dire. C'est le fait d'un misérable. »«
Oui, » dit Jeanne. « Mais vous, comment le savez-vous ? »
« Par Louis, le vieux domestique de mon fils, qui s'est douté de quelque chose tantôt et qui a entendu tous les arrangements des témoins. »«
Et vous savez, madame, reprit Jeanne, qu'il n'y a rien de mal en votre fils et moi. » À dire vrai, ce fut une nouvelle pour la vieille comtesse, et dans le trouble du moment, elle ne put dissimuler une sorte de surprise naïve.
« Mais alors, dit-elle, il n'y a pas de preuve. »«
Preuve de quoi ? » dit Jeanne, « puisqu'il n'y a rien. »«
Et votre mari n'a pas voulu vous croire ? » ?»«
Non. » »«
Alors, rien à espérer ? » ?»«
Rien. » Madame de Lerne se laissa tomber dans un fauteuil et y resta immobile, muette, inerte. Après un silence, Jeanne, qui marchait à travers le salon, s'arrêta devant elle.
« Il est chez vous, votre fils. »«
Oui. Votre voiture est en bas ?» reprit Jeanne. « Eh bien, partons. Je vais avec vous. Je veux le voir. » Tout en parlant, Elle jetait un voile sur sa tête et se drapait dans ses fourrures. Madame de Lerne s'était levée, incertaine. « Est-ce sage ? » dit-elle. « Que voulez-vous qu'il arrive de pis ?» dit Jeanne avec un geste de suprême insouciance, et elle l'entraîna. Madame de Lerne demeurait avenue Montaigne. Ce fut donc l'affaire d'un instant. Chemin faisant, elle rendit compte à Jeanne, en paroles entrecoupées, de tout ce qu'elle savait, de la cause apparente du duel, du nom des témoins, de l'arme choisie, de l'heure et du lieu de la rencontre. Il était environ 1 heure du matin, et Jacques achevait ses dernières dispositions, quand il eut la stupeur de voir la porte de sa bibliothèque s'ouvrir brusquement et donner passage à madame de Montrescan. « Ah, mon Dieu ! » s'écria-t-il. « Vous, est-ce possible ?»« Oui, nous avons tout appris, votre mère et moi, » dit Jeanne haletante. « Et je suis venue, j'ai voulu venir. Me voilà. » « Ma mère aussi » murmura-t-il. « Ah, quel ennui, quel chagrin! Mais, ma pauvre chère amie, que venez-vous faire ici? Vous vous perdez !»« Je sais bien, » dit-elle douloureusement, en se laissant tomber sur une chaise. « Mais j'ai voulu vous voir encore !» Elle sanglotait. « Ma chère dame, ma pauvre enfant » dit-il doucement en lui prenant la main. « Remettez-vous, je vous en prie, et retournez chez vous bien vite, et soyez sûr que ce duel qui vous tourmente ne sera rien. Entre deux hommes qui savent tenir une épée et qui sont à peu près de même force, un duel n'est jamais qu'un assaut sans gravité. « Ah ! » dit-elle, « il vous hait tant !» Les larmes l'étouffèrent. « Ainsi, c'est donc fini, fini à jamais !» « Oh, quelle injustice, mon Dieu, quelle injustice !»« Mon enfant chéri, » reprit-il, « retirez-vous, je vous en prie. Vous ne voudriez pas m'ôter mon calme en ce moment, n'est-ce pas? Dites aussi à ma mère que je la supplie d'être raisonnable, qu'il n'y a pas l'ombre de danger, pas l'ombre, si elle veut bien me laisser mon sang-froid. » « Eh bien, » dit-elle en se levant, « adieu donc, adieu. » Elle s'arrêta devant lui. « Nous nous sommes bien aimés, n'est-ce pas ?»« Oui, mon enfant, oui. » Elle le regarda quelques secondes sans parler, puis l'attirant un peu. « Oui, » répéta-t-elle. Et lui présentant son front, « Baise mon front, » lui dit-elle, « afin que si tu meurs, ce soit du moins pour quelque chose. » Il posa les lèvres sur ses cheveux. Puis, la soutenant d'un bras, il la conduisit hors de son appartement jusqu'aux premières marches de l'escalier. « Vite chez vous !» lui dit-il en lui baisant les deux mains à la hâte. Et il la quitta. Chapitre 13. Madame de Montrescan rentra chez elle aussitôt, ramenée par madame de Lerne. Son absence avait été très courte. Ses gens n'y virent rien d'extraordinaire, et son imprudente démarche demeura ignorée de son mari. Vers 5 heures du matin, elle venait de s'assoupir, brisée de fatigue et d'émotion, quand un bruit qui se faisait au-dessus de sa tête la réveilla. Elle entendit des piétinements, des froissements sourds sur le parquet. Elle comprit que son mari procédait hâtivement avec son valet de chambre à ses apprêts de voyage. Un peu plus tard, ce fut le roulement d'une voiture sur le pavé de la cour, puis sous la voûte de l'entrée. Il était parti. Elle se leva. Elle avait la tête en feu. Elle ouvrit une des fenêtres de sa chambre, qui donnait sur le jardin de son hôtel, et se posa les bras croisés sur la barre d'appui. L'aspect du ciel, des nuages, des murailles, des feuilles naissantes, prenait à ses yeux quelque chose d'étrange et de fantastique. Elle écoutait vaguement les babillages joyeux d'une bande de moineaux qui saluaient l'aube d'une belle journée de printemps. Elle sortit brusquement de sa morne contemplation pour aller chez son fils et pour présider elle-même comme elle le faisait chaque jour, à la toilette matinale de l'enfant. Elle prolongea ses soins accoutumés autant qu'elle le put, pour se donner le plus longtemps possible l'illusion d'un état de choses régulier et paisible. Quand la matinée s'avança, sa solitude, au milieu des anxiétés qui la dévoraient, lui devint intolérable. Elle se décida à appeler sa mère. Sa tendresse généreuse avait hésité jusque-là à lui faire partager cette journée d'angoisse, mais elle sentit que sa tête s'égarait. Elle informa donc en deux lignes Madame de la Tour Ménil de ce qui se passait et lui envoya son billet par un express. Si la mère de Jeanne a cessé depuis longtemps de figurer dans les pages de ce récit, c'est que nous n'avions rien à en dire que le lecteur n'ait pu aisément deviner. Un mot suffira d'ailleurs à combler cette lacune. Madame de la Tour Ménil se mourait tout doucement du beau mariage qu'elle avait fait faire à sa fille. Elle était atteinte d'une affection de foie, compliquée de graves désordres du côté du cœur. C'était en vain que Jeanne lui avait épargné non seulement les reproches, mais même les confidences. Elle était trop femme et trop mère. Elle avait trop souffert elle-même pour s'abuser sur la triste vérité. Et elle ne se pardonnait pas l'étrange aveuglement de vanité qui avait voué sa fille à une destinée pire encore que la sienne. Certaines mères se consolent du malheur officiel de leur fille par le bonheur de contrebande qu'elles leur voient ou qu'elles leur supposent. De telles consolations n'étaient pas à l'usage de Madame de la Tour Ménil, et si quelque chose pouvait aggraver pour elle la douleur et le remords d'avoir voué sa fille à une infortune irrémédiable, c'était la mortelle appréhension de l'avoir peut-être vouée en même temps à la honte. Elle avait eu à cet égard de cruelles perplexités, et le seul jour heureux que la pauvre femme eût connu depuis des années était le jour récent où sa fille, la sentant inquiète de ses relations amicales avec M. de Lerne, lui avait sauté au cou en s'écriant « Vois comme je t'embrasse !»« Je ne t'embrasserai pas comme cela si j'étais coupable, va, je n'oserai plus !» Madame de la Tour Ménil, à qui le billet de Jeanne apporta la première nouvelle du duel de M. de Moresquen avec le comte de Lerne, arriva chez sa fille vers midi. Il y eut d'abord entre les deux femmes plus de larmes que de paroles. Après les premières effusions, Jeanne trouva cependant une sorte de soulagement à répondre aux questions pressées de sa mère et à lui conter tout ce qu'elle savait des circonstances de la querelle. L'incident du bal, la scène qu'elle avait eue avec son mari en rentrant chez elle, et jusqu'à sa visite affolée chez Jacques de Lerne. Pendant qu'elle parlait avec une volubilité fébrile, tantôt marchant, tantôt s'asseyant, elle ne cessait de jeter des regards rapides et inquiets sur le pendule de la cheminée. La rencontre devait avoir lieu à 3 heures, elle le savait. À mesure que l'heure fatale approchait, elle était plus agitée, mais elle devenait silencieuse. Sa marche matinale d'un salon à l'autre s'accélérait, son visage s'empourprait, et ses lèvres ne faisaient plus que murmurer, par intervalles, des exclamations presque enfantines. « Oh, maman, ma pauvre maman, quelle cruauté, quelle misère, quelle injustice, mon Dieu !» Sa mère, effrayée de son état d'exaltation, se leva et, essayant de l'entraîner, « Viens dans ta chambre, mon enfant, allons prier !»« Prier, ma mère ?» lui dit-elle presque rudement. « Et pour qui voulez-vous que je prie? Pour mon mari ou pour l'autre? Voulez-vous que je sois hypocrite ou sacrilège ?»« Ah, prie pour ta pauvre mère qui a tant besoin de pardon !» s'écria Madame de la Tour Ménil, se laissant glisser sur ses genoux et cachant sa tête dans ses mains. « Ma mère, ma mère !» dit Jeanne en la relevant avec force et en la serrant sur son cœur. « Qu'ai-je à vous pardonner? Ne me suis-je pas trompée comme vous ?»« Ah, cela t'était permis à toi. À moi, cela m'était défendu. J'étais ta mère, j'étais ton conseiller, ton guide. La vie m'avait instruite. Ah, que j'ai été coupable. que j'ai été coupable de ne pas mieux choisir pour toi. Tu étais si digne du bonheur, ma pauvre chérie. Tu étais si honnête femme, et voilà où je t'ai menée. »
Mais je suis toujours honnête femme, ma mère, dit Jeanne d'un ton distrait.
Puis tout à coup, levant l'index, elle lui montra le cadran de la pendule. Madame de la Tourménil vit qu'il marquait 3 heures. Une sorte d'étrange sourire crispait les lèvres de Jeanne. Elle prit le bras de sa mère et se promena lentement avec elle, sans parler. Elle soupirait de temps à autre profondément. Au bout de quelques minutes, « C'est probablement fini à l'heure qu'il est, » dit-elle, « car dans ces choses-là, on est très exact, et cela dure très peu de temps, dit-on. Mais ce qu'il y a d'affreux, c'est que nous ne saurons rien avant 2 ou 3 heures d'ici. J'ai fait une chose, ma mère, que vous n'approuverez peut-être pas. Mais à qui pouvais-je m'adresser pour avoir des nouvelles? Je ne pouvais pas les attendre jusqu'à demain, car M. de Montrescan naturellement ne m'écrira pas. Alors j'ai prié Louis, le vieux domestique de M. de Lerne, qui a suivi son maître là-bas, de m'envoyer une dépêche ce soir, aussitôt que cela se pourrait. » Madame de la Tourménil, accablée, ne répondit que par un signe de tête indécis. En ce moment, elles entendirent sonner dans le vestibule le timbre qui correspondait avec la loge du concierge. Comme la porte de l'hôtel avait été rigoureusement condamnée depuis le matin, cette annonce d'une visite parut singulière.
« Déjà ?» murmura Jeanne en s'approchant vivement d'une fenêtre qui s'ouvrait sur la cour. « Déjà ? C'est impossible !»
Elle écarta le rideau et reconnut dans le personnage qui montait l'escalier du perron un professeur d'escrime, ou plutôt un prévôt de salle nommé Lavarède, qui avait coutume de venir 3 fois par semaine faire des armes avec le baron de Montrescan. Très jaloux de son habileté en escrime, M. de Montrescan, tout en fréquentant assidûment la salle d'armes, aimait aussi à s'exercer chez lui, peut-être pour ne pas livrer au public tous les secrets de son jeu. L'apparition de cet homme, au milieu des pensées qui occupaient Jeanne et sa mère, les étonna et les alarma. Elles s'interrogeaient à demi-voix avec inquiétude quand un domestique se présenta à la porte du salon. « Madame, dit-il, c'est M. Lavarède, le prévôt, qui ne savait pas que M. le baron fût en voyage. Il demande si M. le baron sera longtemps absent et s'il faut qu'il revienne lui-même après-demain pour la leçon d'armes. »
« Dites que je ne sais pas, » répondit Jeanne. « On le fera prévenir. »
Le domestique sortit. Après quelques secondes de réflexion, la jeune femme le rappela. « Auguste, » dit-elle d'une voix brève, « je désire parler à M. Lavarède. Faites-le entrer dans la salle à manger.
Je descends. »
Alors, se retournant vers Madame de la Tourménil, « Venez avec moi, ma mère. Je veux dire 2 mots à cet homme. » Et puis nous irons au jardin. L'air nous fera du bien. Il fait très beau d'ailleurs. Venez. » Elles descendirent en se donnant le bras et trouvèrent dans la salle à manger un homme d'une 40aine d'années qui avait la tenue raide et correcte d'un militaire en habit civil.
« Monsieur, lui dit Madame de Montrescan d'une voix un peu hésitante, j'ai désiré vous parler. Mon mari est parti ce matin pour la Belgique. « Vous paraissez ignorer la cause de ce voyage. »«
Oui, madame, je l'ignore. »«
Les domestiques ne vous ont rien dit ?»«
Non, madame. » »«
Ils l'ignorent peut-être même. Tout cela est arrivé si vite. Eh bien, monsieur, la cause de ce voyage, vous la soupçonnez, vous la devinez certainement au trouble affreux où vous nous voyez, ma mère et moi. À l'heure même où je vous parle, monsieur de Montrescan se bat en duel. »
Le prévôt ne répondit que par un léger mouvement de surprise et par un grave salut.
« Monsieur, reprit Madame de Montrescan, dont la parole était en même temps brusque et embarrassée, monsieur, vous comprenez nos angoisses, ne pouvez-vous rien dire pour nous rassurer ?»«
Pardon, madame, puis-je savoir quel est l'adversaire ?»«
L'adversaire est le comte de Lerne. »
« Oh, dans ce cas-là, madame,
dit le prévôt avec un léger sourire. « Je crois que vous pouvez être bien tranquille. »
Jeanne regarda fixement son interlocuteur. « Tranquille ? Pourquoi ça ? » dit-elle.
« Monsieur le comte de Lerne, madame, reprit le prévôt, est un des habitués de notre salle. Il l'était, du moins. Je connais parfaitement sa force. Il tirait assez bien, et il y a eu un temps où il aurait pu lutter avec monsieur le baron. Mais depuis qu'il a été blessé au bras dans son duel avec monsieur de Montélin, il a beaucoup perdu. Il se fatigue très vite, et il n'est pas douteux pour moi que monsieur le baron n'en ait facilement raison. Je pense donc que madame peut être tranquille.
« Alors, dit Jeanne après une pause, vous croyez qu'il va tuer monsieur de Lerne ?
Oh, le tuer, j'espère que non, mais certainement il le blessera ou il le désarmera, ce qui est le plus probable, du moins si la querelle n'est pas trop sérieuse.
« Mais enfin, monsieur, reprit la jeune femme en balbutiant, vous croyez, vous êtes sûr que je n'ai rien à craindre pour mon mari, qu'il ne peut être blessé, lui ?
J'en suis persuadée, madame.
C'est bien, monsieur, je vous remercie. Je vous salue, monsieur. » Elle le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il fût sorti, puis saisissant la main de sa mère. « Ah, ma mère ! » dit-elle d'une voix étouffée. « Je sens que je deviens criminelle. »
Les portes-fenêtres de la salle à manger s'ouvraient de plein pied sur le jardin de l'hôtel. La mère et la fille y entrèrent et s'assirent côte à côte sur un banc, entourés d'une haie de lilas déjà verdoyant. À peine assises.
« Mais ma mère, reprit Jeanne, d'après ce que dit cet homme, si on le tuait, ce serait un véritable assassinat. « Ma fille chérie, je t'en prie, calme-toi, tu me fais tant de mal, tant de mal. D'ailleurs, je t'assure que ce qu'a dit cet homme est plutôt fait pour nous donner bon espoir, car enfin, ton mari n'est pas un monstre, et entre gens d'honneur, il y a des choses impossibles. Si réellement monsieur de Lerne est resté souffrant, fatigué de son bras.
« Oui, dit Jeanne, je m'en suis aperçue plus d'une fois.
« Eh bien, poursuivit madame de la Tourménil. « Ton mari l'aura remarqué, certainement, et il se sera contenté de le désarmer.
Oh, « Ma mère, il le hait tant, il nous hait tant, tous deux, et puis il n'est pas bon, il est méchant. »
Cependant, elle s'attacha à cette pensée, à cet espoir, que sa mère lui suggérait. Oui, c'était assez vraisemblable, en effet. Monsieur de Morescan, après tout, était homme d'honneur, comme le monde l'entend. Il ne voudrait pas abuser de l'inégalité des forces. Et puis, pendant le voyage, il se serait rappelé tout ce que sa femme lui avait dit la veille. Il aurait réfléchi avec plus de sang-froid. Il serait arrivé presque convaincu de son innocence. À demi apaisé, moins avide de vengeance.
Elle sentait aussi, dans tout ce qui l'entourait, une influence bienfaisante, calmante. Elle la sentait dans le silence de ce jardin aux grands murs de cloître, dans l'air pur et dans le ciel bleu, dans les odeurs de la verdure nouvelle, dans la douceur d'une belle journée à son déclin. L'imagination ne peut que difficilement associer des idées de violence et des scènes de sang à la sérénité charmante et impassible de la nature. Et il semble, à ceux qui respirent la paix de la campagne ou des jardins, que la paix doit régner partout, comme elle règne autour d'eux. Le temps passait, d'ailleurs, et, n'apportant aucune émotion nouvelle, laissait s'épuiser à demi les émotions anciennes. Jeanne et sa mère, se tenant la main sans se parler, éprouvaient toutes deux, après les agitations aiguës de la journée, une sorte de torpeur presque douce. Il était un peu plus de 5 heures du soir quand Jeanne se dressa tout à coup. Elle avait entendu de nouveau le timbre résonner dans le vestibule.
« Cette fois-ci, voilà » dit-elle.
2 minutes s'écoulèrent. Jeanne et sa mère étaient debout, les yeux fixés sur la porte du vestibule. Un domestique parut sur le seuil, un plateau à la main.
« C'est une dépêche pour madame, » dit-il. « Donnez !» dit Jeanne en faisant deux pas au-devant de lui. Elle attendit que le domestique se fût retiré, et sans ouvrir la dépêche, elle regarda sa mère. « Laisse-moi l'ouvrir !» murmura madame de Latour-Ménil en essayant de prendre le télégramme. « Non !» dit la jeune femme en souriant. « J'aurai le courage. Va !» Elle décacheta l'enveloppe bleue. À peine eut-elle jeté les yeux sur la dépêche qu'elle lui échappa des mains. Son regard devint fixe, ses lèvres s'agitèrent convulsivement, elle étendit ses deux bras en croix, poussa un cri prolongé qui remplit tout l'hôtel et tomba toute raide sur le sable aux pieds de sa mère. Pendant que les domestiques accouraient à ce cri sinistre, madame de Latour-Ménil, éperdue, se jetait sur sa fille et, tout en lui prodiguant ses soins, ramassait fiévreusement la dépêche. Voici ce qu'elle lut. Soigny, 3h30. Monsieur Jacques, blessé mortellement, vient de succomber. Louis. Chapitre 14. 6 mois plus tard, vers la mi-octobre de cette même année, 1877, nous retrouvons monsieur et madame de Morescan installés maritalement à la Vennerie, magnifique propriété située entre Creil et Compiègne, et dont monsieur de Morescan avait fait l'acquisition 18 mois auparavant. Il était grand chasseur. Il y avait de belles chasses à la Vennerie, et c'était ce qu'il avait déterminé à acheter ce domaine pour n'avoir plus à louer des chasses de côté et d'autre chaque année. Il avait invité pour l'ouverture de la saison un assez grand nombre d'amis, entre autres messieurs de Montélin, d'Hermagny, de la Jardie et Saville, envers qui madame de Morescan remplissait ses devoirs de châtelaine avec beaucoup de bon goût, de grâce et même de gaieté. On pensait généralement que la gaieté était de trop, et qu'après avoir été, il y avait si peu de temps, à tort ou à raison, la cause de la mort d'un homme, elle eût pu ressentir, ou du moins affecter, une certaine mélancolie. Mais le cœur des femmes a des mystères impénétrables. À la suite du duel qui s'était terminé d'une manière si fatale pour le comte de Lerne, aucun argument, aucune prière n'avait pu persuader à Jeanne de Morescan de demeurer sous le toit conjugal et d'y attendre le retour de son mari. Elle s'était réfugiée le soir même chez sa mère, emmenant bravement son fils. Madame de Latour-Ménil eut la tâche délicate de négocier avec monsieur de Morescan les clauses et conditions d'un mode d'existence temporaire et convenable aux circonstances. Elle ne trouva pas son gendre aussi récalcitrant qu'elle s'y était attendue. Il n'était pas fâché lui-même de ne pas avoir à affronter immédiatement la présence de sa femme, sentant que sur de simples soupçons, il avait peut-être, à son égard, comme à l'égard de monsieur de Lerne, poussé les choses un peu vite et un peu loin. Personne n'est bien aise d'avoir tué un homme, et si peu sentimental que fût monsieur de Morescan, il n'était pas sans éprouver une sorte de vague remords qui se traduisit par les dispositions conciliantes qu'il témoigna à madame de Latour-Ménil. Il fut donc convenu que madame de Morescan garderait son fils et qu'elle accompagnerait sa mère d'abord à Vichy, puis en Suisse, à Vevey, où elles devaient toutes deux passer l'été. Durant cet intervalle, les sentiments de part et d'autre se calmeraient et s'adoucirait, d'autant plus sûrement, suivant madame de Latour-Ménil, qu'il n'y avait eu dans cette malheureuse aventure qu'une série de malentendus. Ce duel avait beaucoup occupé Paris pendant 8 jours. La catastrophe finale produisit même un mouvement d'opinion favorable à la réputation de madame de Morescan. Il y avait, entre la cruauté de ce dénouement et les légères imprudences de conduite qu'on pouvait reprocher à Jeanne et à monsieur de Lerne, une disproportion qui saisit les esprits et désarma la calomnie. on fut d'avis, en général, que le baron de Montrescan s'était montré bien farouche et bien implacable envers un homme dont le seul tort paraissait être en réalité d'avoir fait la lecture à sa femme. Ses propos et ses bruits du monde, en apaisant la vanité de M. de Montrescan et en flattant son orgueil, ne laissèrent pas de faciliter le rapprochement des deux époux. Madame de Montrescan avait paru, dans les premiers temps, absolument rebelle à l'idée de ce rapprochement. Mais après 2 ou 3 mois passés dans une sorte de stupeur désespérée, elle sembla se réveiller brusquement un beau jour, et, à la suite de réflexions inconnues, elle déclara à sa mère qu'elle se rendait à ses conseils. Elle rentrerait chez son mari, elle demandait seulement qu'on lui accordât encore quelques mois de délai. « Il faut bien, » dit-elle, non sans un reste d'amertume, « lui laisser le temps de sécher ses mains. » À dater de cette résolution, son humeur se modifia profondément. Elle sembla reprendre goût à la vie, et l'avenir parut lui présenter quelque intérêt assez vif pour lui rendre une partie de son activité et de son animation. Elle vint donc rejoindre son mari à Paris vers la fin du mois de septembre, et fit sa rentrée chez elle aussi simplement que si elle fût revenue d'un voyage ordinaire. À dire vrai, M. de Montrescan parut être le plus embarrassé des deux. Du reste, il n'avait jamais eu l'habitude des grandes expansions. Il n'y eut donc en apparence rien de changé entre eux. Elle toucha, avec un léger sourire, la main qu'il lui tendait à son arrivée. Et la santé de leur fils Robert, sa bonne mine, sa croissance rapide, leur fournirent un sujet d'entretien facile qui les mit à l'aise. Quelques jours plus tard, ils allaient faire leur installation au château de la Vennerie, où la compagnie de leurs invités devait leur épargner la gêne d'un tête-à-tête prolongé. On se doute assez que Madame de Montrescan fut d'abord pour les hôtes du château et pour les voisins de campagne l'objet d'une extrême curiosité. Il était impossible de ne pas observer, avec une attention très particulière, la physionomie et le maintien d'une jeune femme dont le nom venait d'être mêlé à une aventure tragique de tant de mystères et de tant d'éclats. Les curieux en furent pour leurs frais. L'attitude de Jeanne était tranquille et naturelle, et à moins de lui supposer une étonnante profondeur de dissimulation, qu'il n'est jamais téméraire, il est vrai, de supposer à son sexe. Il y avait tout lieu de penser qu'elle avait définitivement pris son parti des chagrins et des désagréments personnels qui lui avaient été si récemment infligés. On trouva même, ainsi que nous l'avons dit, qu'elle portait avec un peu trop d'aisance le deuil d'un homme mort pour elle et qui avait été tout au moins son ami. « Cela n'est vraiment pas encourageant, » dit un jour le beau Saville à Madame d'Hermagny. Si ce pauvre de Lerne revenait au monde pour quelques minutes, il serait diablement étonné. Pourquoi ça, mon ami? Parce que, ma parole, c'est révoltant, dit le beau Saville, qui n'était pas un aigle, mais qui avait bon cœur. On dirait que la mort de ce pauvre garçon a été un débarras pour elle. Jamais je ne l'ai vu si en train, si en l'air, si émoustillé. Faites-vous donc tuer pour ces dames. « Mais, mon ami, personne ne songe à vous faire tuer, rassurez-vous. Et quant à mon amie Jeanne, c'est une personne qu'il ne faut pas juger à la légère. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans sa jolie tête, mais il y a dans sa prunelle quelque chose qui ne me plairait pas beaucoup si j'étais son mari.
« Je ne vois rien du tout dans sa prunelle, moi, » dit Saville.
« Naturellement, » dit Madame d'Hermagny. Cette belle humeur de sa femme, qui choquait tout le monde autour de lui, était loin de choquer le baron de Montrescan. Il s'en félicitait fort, au contraire.
« C'est une femme matée, » se disait-il. « Voilà ce que c'est. Elle est matée. C'est mon système, mater les femmes. Depuis que la mienne a reçu une leçon, un peu verte à la vérité, elle est revenue au bon sens pratique. » Elle est 100 fois plus heureuse et plus aimable. C'est parfait comme ça, parfait, Parfait. Il s'était opéré en effet dans les goûts et dans les habitudes de Jeanne un changement très bizarre et très digne d'intérêt. Au lieu de s'attacher presque uniquement, comme autrefois, aux jouissances dont l'âme et l'intelligence sont la source, elle avait pris tout à coup le goût à peu près exclusif des plaisirs physiques. Elle n'ouvrait plus un livre, son piano restait fermé, son cher livre à serrure ne recevait plus ses impressions confidentielles, ni les extraits de ses poètes préférés. Elle avait perdu ce penchant tendre à l'émotion et à l'enthousiasme qui l'avait distinguée, et elle avait contracté cette vulgaire et détestable manie parisienne du persiflage perpétuel. L'équitation, la chasse, le billard, la danse étaient désormais ses passions maîtresses. Elle suivait à cheval les chasses à cour dans la forêt de Compiègne, à pied les chasses à tir dans les bois de la Vénerie, et elle ne s'en montrait pas moins chaque soir une valseuse infatigable. Les hommes ne l'avaient jamais trouvée si charmante, et il faut ajouter qu'ils ne l'avaient jamais soupçonnée d'être si coquette, car elle l'était devenue, et elle apportait même dans ce vice aimable, si nouveau pour elle, la gaucherie d'une débutante qui n'a pas encore le juste sentiment de la mesure. Ses vivacités d'allure et de langage dépassaient quelquefois la nuance qui sépare la bonne compagnie de la mauvaise. Mais cela ne déplaisait pas à M. de Morescan. Il s'en amusait, il en riait avec ses amis. « Elle est déniaisée, disait-il. Elle commence une existence nouvelle. Il y a un peu d'excès dans le ton. Elle est comme les nouvelles mariées qui disent des sottises le lendemain de leurs noces. Mais ça passe. » Il finit pourtant, au bout d'un certain temps, par estimer que sa femme recherchait, avec un peu trop de prédilection, la société des hommes. Qu'elle leur tint assidûment compagnie à la promenade, à la chasse, dans la salle de billard, à la bonne heure. Mais ce qui l'étonna un peu, ce fut de la voir les poursuivre jusque dans la sellerie des communs, où ils se réunissaient à peu près chaque matin pour faire des armes. Cette sellerie était une vaste pièce monumentale, pavée en mosaïque, bien chauffée, largement éclairée et tout à fait convenable à ce genre de sport. De hautes banquettes, recouvertes de sparteries, couraient le long des murailles et servaient de siège aux spectateurs. La première fois que M. de Morescan et ses hôtes aperçurent soudainement, à travers l'épaisse fumée de leurs cigares, Jeanne de Morescan assise sur une de ces banquettes, ils éprouvèrent une sensation non seulement de surprise, mais de malaise. Elle était entrée sans bruit, sans être remarquée. Elle avait pris place silencieusement et regardait les tireurs qui faisaient assaut. Il parut à tout le monde assez extraordinaire qu'une personne qu'on avait crue délicate et sensible vint régaler ses yeux du spectacle de ces jeux de l'escrime qui ne pouvaient manquer de lui rappeler tout particulièrement un souvenir sinistre. Il fallut pourtant s'habituer à sa présence, car dès ce jour, elle ne cessa pas un seul matin de se trouver à la sellerie, à l'heure où M. de Morescan s'y rendait avec ses invités. L'étrange jeune femme semblait suivre leur passe d'armes avec un intérêt passionné. Un peu penchée en avant, le front sérieux, l'œil fixe, elle s'absorbait tout entière dans la contemplation des parades et des ripostes échangées entre les adversaires. Mais c'était surtout quand son mari était en scène de sa personne que sa curiosité et son dilettantisme semblaient atteindre leur plus haut degré d'intensité. Elle était alors si attentive qu'elle n'en respirait plus. Cette extrême attention gênait même M. de Morescan. Jeanne, cependant, à force d'application, parvint à se connaître assez bien en escrime. Elle se rendait compte assez nettement des coups et de la force relative des tireurs. Ce fut ainsi qu'elle put s'assurer que son mari était effectivement, comme elle l'avait ouï dire, un tireur d'une adresse, d'une solidité et d'une vigueur très distinguées,
et que parmi ses hôtes du moment, il n'y en avait qu'un seul qui pût se mesurer avec lui sans trop d'inégalité. C'était monsieur de Montella. Il eut même deux ou trois fois l'avantage sur son hôte dans des parties d'assaut, ce qui lui valut quelques aimables paroles et quelques compliments flatteurs de la part de madame de Morescan. Chapitre 15. Monsieur de Montélin, est-il nécessaire de le dire, se voyant débarrassé de la rivalité du comte de Lerne, avait repris tout doucement auprès de madame de Morescan son ancien rôle de soupirant et de consolateur. Vers ce temps-là, il crut se sentir sérieusement encouragé, et il commençait à nourrir des espérances qui ne laissaient pas de paraître assez légitimes, quand un événement inattendu vint de nouveau jeter le trouble dans ses opérations. Outre les hôtes familiers du château et les voisins, M. de Morescan invitait de temps à autre, aux chasses de la Vénerie, quelques officiers de la garnison de Compiègne qu'il avait connus à Paris ou rencontrés dans les chasses à cour de la forêt. Parmi ces officiers, qui étaient pour la plupart des hommes du monde d'une parfaite tenue, il y en avait un qui faisait exception et qu'on était un peu surpris de voir accueilli à la Vénerie. C'était un jeune capitaine de chasseurs nommé De Sontis, bien né mais mal élevé, d'un libertinage insolent et de mœurs grossières. Sa personne physique ne compensait nullement ce qui lui manquait du côté de la distinction sociale et morale. Il était petit, laid, blême, fort maigre, avec de rares cheveux d'un blond pâle et des yeux gris, d'une expression dure et cyniquement railleuse. Mais c'était un sportsman accompli. En matière d'équitation, de course, de chasse, et généralement dans toutes les choses du sport, c'était non seulement un connaisseur des plus compétents, mais un exécutant d'une habileté supérieure. C'était par ses qualités spéciales qu'il avait captivé M. de Morescan, qui s'était mis en tête depuis quelque temps de faire de l'élevage et de se monter une écurie de course. Il ne cessait de conférer sur ces importants sujets avec le capitaine De Sontis et se louait fort de ses précieux conseils. En revanche, madame de Morescan avait conçu à première vue pour ce jeune homme de mauvaise mine et de mauvais ton une antipathie qu'elle ne se donnait pas la peine de lui dissimuler. Ce fut donc avec ennui qu'elle le vit, dans les premiers jours de novembre, s'établir à la Vénerie pour 3 semaines, sur l'invitation de M. de Morescan, car jusqu'alors il n'avait fait qu'y déjeuner ou y dîner de temps à autre à l'occasion d'une chasse. Dès la première matinée qu'il passa au château, M. de Sontis fut engagé courtoisement à accompagner M. de Morescan et 2 ou 3 de ses hôtes à la sellerie pour y faire un peu d'escrime, si le cœur lui en disait. Monsieur de Sontis dit qu'il serait enchanté de se dérouiller le poignet, attendu qu'il y avait très longtemps qu'il n'avait tiré. Après avoir espadonné contre le mur pendant quelques minutes, il accepta un petit assaut anodin avec le maître de la maison. Ils se mirent donc en présence, et monsieur de Morescan ne fut pas peu surpris de trouver dans ce chétif personnage un adversaire des plus sérieux. Ce petit homme, frêle, avait un coup d'œil, une souplesse et des allonges de tigre. Un peu étonné d'abord par la vigueur du jeu de monsieur de Morescan, il se remit vite et prit un avantage absolu dans la seconde partie de l'assaut. Monsieur de Morescan, piqué, dit en riant qu'il espérait avoir sa revanche le lendemain. « Soit, dit monsieur de Sontis, tout à vos ordres, mais je vous avertis que maintenant je vous tiens et que vous me toucherez quand ça me fera plaisir. » « Nous verrons ça, dit monsieur de Morescan très sèchement. Jeanne avait assisté ce matin-là, comme de coutume, à la séance d'escrime. Elle en sortit avec un air de gravité et de méditation qui ne lui était pas habituel depuis qu'elle était entrée dans sa seconde manière. elle fut rêveuse tout le jour. Elle ne manqua pas de se rendre à la séance du lendemain. Monsieur de Montrescan et le capitaine de Sontis engagèrent un assaut auquel la petite scène de la veille prêtait un intérêt exceptionnel. La curiosité de tous les spectateurs était manifestement surexcitée. Mais celle de madame de Montrescan était portée au dernier degré, et ses traits tendus exprimaient, pendant qu'elle suivait les phases et les péripéties de la lutte, un intérêt, ou plutôt une anxiété, tout à fait hors de mesure avec les circonstances. Cet assaut fut un désastre pour le baron de Montrescan. Le jeune officier de chasseurs, quoique très inégal à son hôte en force musculaire, n'en était pas moins, sous sa frêle apparence, d'une trempe d'acier. Il était dès longtemps passé maître en fait d'escrime, et il s'était vite rendu compte des faiblesses et des lacunes du jeu, d'ailleurs très redoutables, de monsieur de Montrescan. Il avait reconnu qu'il avait sous les armes le défaut habituel des hommes très vigoureux et très sanguins, c'est-à-dire la tendance à trop compter sur leur vigueur et à abuser même inconsciemment des effets de force. Doué lui-même d'une légèreté et d'une précision de main incomparables, et aussi sûr de son œil que de sa main, monsieur de Sontis ne laissait aucune prise à son adversaire. Il le troublait et l'éblouissait par des feintes rapides, profitant des écarts auxquels se livrent toujours dans la parade les épées violentes, pour lancer des dégagements d'une vitesse foudroyante. Monsieur de Montrescan avait devant lui une épée invisible et intangible. Il ne la sentait pour ainsi dire que quand elle touchait sa poitrine. En résumé, il reçut dans cet assaut 5 ou 6 coups de bouton et n'en donna pas un seul. L'amour-propre, très irritable, de monsieur de Montrescan ne lui permit pas d'avouer son infériorité décisive. Il convint seulement qu'il n'était pas en train ce jour-là. Il voulut renouveler l'épreuve les jours suivants. Mais elle ne lui réussit pas davantage. Et s'il parvint 2 ou 3 fois, dans autant d'assauts successifs, à faire sentir le bouton de son fleuret à monsieur de Sontis, il parut évident à tout le monde que celui-ci y avait mis de la politesse. Bref, ennuyé et dépité, monsieur de Montrescan s'abstint dès ce moment, sous différents prétextes, de faire des armes le matin.